Mola Archives Sonores.
Bon, bonsoir à tous. Nous allons sans plus tarder démarrer. Donc, nous sommes très, très heureux d'accueillir ce soir Mona Ouzouf, ici à la librairie Mola, pour son dernier ouvrage, donc Composition française, Retour sur une enfance bretonne, publié aux éditions Gallimard. Est-il encore besoin de présenter Mona Ouzouf? On rappellera très très brièvement, bien sûr, d'autant que l'ouvrage, évidemment, rappelle tout son parcours, en grande partie son parcours. On rappellera donc que Mona Ouzouf est historienne, mais philosophe de formation, qu'elle est chercheure à l'École des hautes études en sciences sociales. Et donc qu'elle est réputée pour avoir beaucoup travaillé sur l'histoire de l'éducation, l'histoire de la Révolution française, et qu'elle laisse évidemment énormément d'ouvrages sur ces sujets, notamment la République des instituteurs, qu'elle a coécrit avec son époux Jacques Ouzouf, bien sûr le fameux dictionnaire critique de la Révolution française, coécrit avec François Furet, avec qui elle a beaucoup travaillé, notamment aussi sur l'ouvrage « La Gironde et les Girondins ». Un ouvrage aussi très, très utile et très, pour tous les historiens, sur l'école, l'Église et la République, 1874-1914. Donc la Troisième République l'a beaucoup intéressée aussi, période évidemment où se fonde la République. Elle laisse une biographie aussi de Jules Ferry. Et donc, sa route l'a aussi menée, je pense, vers d'autres domaines de réflexion, qu'on vient aussi de rappeler, l'histoire des femmes. Et évidemment, elle s'est intéressée au féminisme, hein, je crois. On y reviendra. Elle s'est beaucoup intéressée à la littérature, avec un goût très prononcé pour la littérature. Un ouvrage auquel, je pense, elle tient particulièrement, peut-être moins connu, sur l'œuvre d'Henry James, donc, qui est un de ses auteurs préférés. Mais c'est à elle, évidemment, de nous en dire plus. Puis enfin, donc, Mona Ouzouf, c'est aussi une implication dans le journalisme et dans la vie de la cité, le Nouvel Observateur, la revue Le Débat. Elle pétitionne volontiers, hein, donc notamment récemment pour apporter son soutien à la liberté pour l'histoire. Et donc cet ouvrage Composition française, peut-être dans son parcours quelque chose d'assez atypique, d'assez particulier, difficile à classer. C'est un ouvrage érudit, on s'y attendait bien sûr, analytique aussi, on s'y attendait, mais c'est un ouvrage aussi, je pense, de sensibilité. Et donc, ma première question consistera à lui demander comment est-ce qu'on peut classer cet ouvrage? Est-ce un essai d'égo-histoire? Est-ce une autobiographie? Voilà, donc à vous de nous dire.
Non, c'est un peu difficile de répondre à la question. Ça me plonge du reste dans des sentiments un peu mélangés parce que quantité de comptes rendus dans la presse disent... Eh bien, c'est le testament de Mona Ouzouf, ce qui n'est pas très, très agréable. J'ai aussi lu un compte-rendu qui commence « Au soir de sa vie, Mona Ouzouf pense utile de revenir sur son enfance, etc. » Bon, tout ça, c'est vrai, c'est profondément vrai, mais ce n'est pas très plaisant quand même. Cela étant, pourquoi ce livre? Pourquoi maintenant? En réalité, j'y pense depuis longtemps, et comme très souvent chez moi, c'est toujours la suggestion d'un copain qui est déterminante. J'avais écrit un recueil d'articles, enfin Gallimard avait réuni un de mes recueils d'articles vers les années 84-85, d'ailleurs sous le titre déjà « L'école de la France » qui m'a fourni un titre pour un de mes chapitres cette fois-ci. Et j'avais fait un bref retour en arrière sur, disons, un petit récit de formation très rapide dans cette préface. Et cet ami qui était... à ce moment-là, PDG de Calman Levy, m'avait dit, tu sais, tu devrais... Il y a un livre à faire avec ça. Bon, ça, oui, peut-être. Mais c'était en 84-85 que les travaux d'Hercule du bicentenaire de la Révolution française s'annonçaient. Je savais que j'aurais peu de temps. Bon, ça, j'avais un peu oublié ça. Et puis c'est revenu. C'est probablement, en effet, tous ces articles qui soulignent, sans que ça me fasse un plaisir enchanteur, mon âge, touchent quand même probablement quelque chose de vrai là-dedans, c'est que Quand on a 20 ans, on est persuadé qu'on invente sa vie et qu'on invente beaucoup de choses avec sa vie. Et puis, plus on avance, et plus, je crois, la part non choisie de l'existence reprend son poids et son importance. Et c'est probablement aussi une des raisons qui ont fait que j'ai fait ce retour en arrière. Cela étant, je ne l'ai pas du tout fait dans la perspective d'une autobiographie. Ça ne me paraît pas du tout être une autobiographie, ce livre, parce que j'ai naturellement, enfin je dis naturellement, ça ne va pas de soi, mais pour moi il était évident que je ne faisais dans le livre aucune allusion à, comment dire, mes émotions juvéniles, à mes amitiés ou à mes amours. Ce n'était pas du tout ça qui était en question. En fait, depuis très longtemps, une question me trotte par la tête et probablement fournit l'unité d'ouvrages très disparates. Des ouvrages très disparates que j'ai faits, puisque ça va de la Révolution française à Henry James, je sais quoi. Mais ce qui m'intéresse le plus, je pense, c'est toujours comment une société fait-elle droit à ses différences. Et ces différences peuvent être d'ordre tout à fait divers, elles peuvent être d'ordre politique, elles peuvent être d'ordre ethnologique, culturel, elles peuvent même être d'ordre sexuel. Et le livre que j'ai fait, que j'ai consacré et que j'ai appelé « Les mots des femmes », était destiné dans mon esprit à montrer qu'en France, les rapports entre les hommes et les femmes sont plutôt plus agréables, plus heureux et plus civilisés que dans beaucoup d'autres pays, et à en chercher les raisons, ce qui du reste ne m'a pas fait beaucoup d'amis parmi les rangs féministes exaltés. Bref, c'est quand même ça qui fait l'unité, je crois, de mes œuvres. Et je me suis demandé pourquoi la France a-t-elle une difficulté particulière à accueillir ses différences et à vivre ses particularités. Et je me suis dit aussi qu'une des façons de le comprendre, c'était peut-être de faire retour sur une enfance probablement atypique, oui, sûrement très atypique, parce que c'est une enfance où j'ai vraiment vécu constamment la tension entre l'universel et le particulier, la contradiction entre le particulier qui était celui de la famille, de la maison, et l'universel que je trouvais à l'école. Avec cette circonstance particulière que la maison et l'école occupent le même lieu, un lieu très, très exigu et très clos, très exigu puisque je vais et je viens du logement de l'institutrice à la salle de classe en traversant la cour, cela pendant la semaine, mais aussi les dimanches et fêtes, puisque le veuvage de ma mère, le chagrin qui s'en est suivi pour elle, tout cela fait qu'on ne sort jamais des murs du palais scolaire. Donc un lieu exigu, un lieu clos, et un lieu où effectivement ce que j'apprends à la maison est totalement antinomique de ce que j'apprends à l'école. Sinon, comment dire, frontalement antinomique, du moins, l'enseignement de l'école est d'une étrangeté radicale par rapport à l'enseignement de la maison. Alors c'est avec ça qu'il faut se débrouiller, il faut faire avec, il faut. Et au fond, c'est ça que je raconte, c'est en cela que c'est autobiographique, mais ça n'est autobiographique que dans la mesure où, à mes yeux, ça répond aux questions posées dans ce que j'appelle la postface, dans la seconde partie, dans le second versant de mon livre, qui est effectivement d'une facture différente du début, ce qu'a d'ailleurs formidablement bien senti le recenseur de Sud-Ouest, qui a, je trouve, consacré à Composition française le meilleur des comptes rendus de la presse, parce qu'il a tout à fait mis le doigt sur la difficulté d'écrire de la même façon cette première partie, qui est quand même une première partie existentielle, et une seconde partie qui est de l'ordre du réfléchi plus que de l'éprouver.
Alors comment avez-vous fait pour justement arrimer ces deux domaines si,
J'ai fait comme j'ai pu. D'ailleurs, j'ai failli abandonner au printemps dernier parce que j'avais conçu la seconde partie d'une manière très raide et très universitaire. D'abord, je l'avais conçue comme ayant la même importance, le nombre de pages à peu près, que la première. Et je l'avais divisée en chapitres, en donnant à ces chapitres des titres Oui, enfin, très, qui fixait l'ambition, c'est-à-dire le républicanisme imaginaire ou chimérique, le communautarisme imaginaire, etc. Et quand j'ai relu à la suite la première partie et les premiers, le chapitre 1 et le chapitre 2 que j'avais commencé à écrire, je me suis dit que j'étais en train de faire un livre monstrueux. Parce qu'il y avait une telle dénivellation de ton, de registre entre les deux parties que ça vraiment, ça n'avait l'air de rien. Et donc j'ai abandonné pendant 3 mois, puis j'ai repris ça cet été, l'été dernier, en me disant peut-être qu'il y a moyen d'arranger. Donc j'ai beaucoup coupé dans les deux parties. Et j'ai en particulier, c'est pour ça qu'on s'éloigne de l'autobiographie, j'ai coupé tout ce qui pouvait alourdir un possible pathos de la première partie, puisque la première partie s'ouvre par le lit de mort de mon père, j'ai 4 ans, et c'est là que je prends vraiment conscience de mon existence et de l'existence du... C'est là que naît la mémoire, parce qu'on me demande de traverser cette chambre obscure et d'aller embrasser mon père et que le contact de la joue glacée est mon premier souvenir. Donc, on pouvait la. J'étais obligée de commencer par là. C'est vraiment la scène primitive de ma vie. Et comme mon père, par ailleurs, est un militant de la langue bretonne, donc un militant du particularisme culturel, cette scène, j'étais absolument obligée de commencer par elle et j'avais peur de verser dans l'émotif. Donc. Voilà, comment j'ai fait? J'ai remis de l'impersonnel dans la première partie, du personnel dans la seconde. J'ai essayé de me livrer un petit point de crochet ou de surjet entre les deux parties. Et voilà, maintenant, la preuve que ça n'est pas totalement abouti ou réussi, c'est que les lecteurs, ce lecteur très perspicace de Sud-Ouest, sent la différence de ton entre les deux parties. Mais ça, je ne vois pas bien comment on pouvait l'éviter.
Ça donne aussi de très belles pages, véritablement littéraires, cette première partie. Et puis on retrouve Mona Ouzouf, l'analyste, l'historienne, la philosophe, dans la deuxième partie. Donc on est assez comblé, du coup. Bien.
Merci.
Vous insistez donc sur les trois appartenances. Donc c'est quasiment schizophrénique, quoi,
Oui.
comme quotidien entre
Oui.
trois croyances, donc la foi, l'école. Et puis, donc la croyance dans l'église, en fait, l'école, et puis la famille qui est l'identité bretonne.
Oui.
Alors, comment est-ce qu'on compose avec tout ça quand on est enfant? Et tout au long d'une vie, est-ce que l'une des croyances l'a emporté sur l'autre?
Bien
Voilà.
sûr, bien sûr. Non, quand on est enfant, on ne compose pas, on juxtapose, non sans quelques doutes ou sans quelques perplexités. Ça se passait surtout pour moi entre l'école et la maison, parce que les croyances de l'Église étaient d'une telle aridité, ça tient probablement à l'enseignement du catéchisme dans cette église de Plouha, qui était un enseignement sans douceur et un enseignement assez mécanique, donc qui donnait très peu à rêver. Et donc, c'est pas ça la contradiction essentielle, encore que pour un enfant, c'est toujours un choc d'apprendre que ses parents brûlent en enfer, alors qu'on est absolument convaincu soi-même d'aller en paradis, bien entendu. J'étais tout à fait convaincu d'être promise au paradis à cette époque. Et quand on se hasarde à poser la question au curé, au recteur, il vous répond au paradis, avec un accent breton inimitable, si, imitable quand même, puisque je vais l'imiter, il répond, mais au paradis, tu n'y penseras pas. Ce qui, pour à 8 ans, vous paraît légèrement décevant. Donc, je laisse de côté ces croyances de l'Église, parce que ça n'est pas là qu'est le point vif du livre, mais c'est effectivement la contradiction entre les croyances de la maison et les croyances de l'école. Pourquoi? Parce que les gloires que l'école célèbre sont méprisées à la maison. Par exemple, les fédérés de Bretagne et d'Anjou, qui arrivent à Versailles et qui déclarent superbement qu'ils renoncent à leurs privilèges, qui sont les libertés bretonnes, les franchises bretonnes ou angevines. et qu'ils renoncent parce qu'ils les considèrent comme anticonstitutionnels et qu'ils ne veulent plus être que français, ces fédérés sont les gloires de l'école. La maison les considère avec un peu de j'ose pas dire de mépris. Enfin, ce sont des gens qui n'ont rien compris à nos particularités, aux yeux de la maison. L'école honore Colbert, dont nous savons à la maison qu'il a contribué à la répression de la rébellion des bonnets rouges, que la maison révère aussi. Par ailleurs, les écrivains français qui se sont promenés en Bretagne nous ont laissé des descriptions qui ne nous enchantent pas à la maison. Si on les suit, la Bretagne est un pays de fondrières, où les voitures s'embourbent inéluctablement, où les pluies sont définitives, où les chaumières sont sordides, où les êtres sont mal lavés, où les esprits sont mal dégrossis, etc. Par exemple, nous abominons à la maison Mérimée qui a dit « Oh, le breton, c'est une langue qu'on ne peut parler qu'avec un baillon dans la bouche ». Et la personne que nous exécrons le plus est Madame de Sévigné, parce que non seulement elle a compté de façon assez allègre les pendus des bonnets rouges au long des routes bretonnes, mais elle a dit de nous « mea culpa », c'est le seul mot de français qu'il sache. Donc, il y a entre l'école célèbre et la réticence, sinon la dérision que ma mère exerce de la maison, il y a un abîme. Et par ailleurs, les gloires de la maison, c'est-à-dire nos grands fondateurs de la patrie celte, Nomi Noé, Eris Poé, enfin ces héros de la maison, l'école les ignore évidemment absolument. Et l'école ne porte pas non plus une révérence, ne montre pas une révérence particulière à l'égard de notre petite duchesse boiteuse que nous aimons à la maison pour avoir tenté de défendre contre les empiétements de deux rois français successifs les franchises et les libertés de la Bretagne. Donc c'est un univers contradictoire. Et par ailleurs, ce qui est aussi assez étonnant quand on sait que l'école publique française faisait quand même un accueil assez large aux particularités régionales, du moins géographiques. En tout cas, l'école que je fréquentais à Ploie, on n'y parlait jamais de la Bretagne. On ne sortait jamais de l'école pour une visite patrimoniale. On n'allait jamais au bord de la mer, qui est à 3 km. Et on vivait effectivement avec, sous les yeux, le village français archétypique, qui, comme chacun de nous sait, quand il a atteint un certain âge, est le village alsacien. Un village qui a ses pignons pointus, ses couleurs brunes et roses, et qui ressemble en rien, qui est complètement exotique pour un enfant breton. Donc, ignorance absolue de la Bretagne à l'école, à la maison, mépris pour les gloires de l'école, dérision, ma mère me dit que nos ancêtres, les Gaulois, on apprend ça aussi aux petits Marocains, aux petits Tunisiens. Elle le dit cum grano salis. Et voilà. Et donc, au milieu de tout cela, moi, je n'ai pas, naturellement, je ne fais aucun arbitrage. À 8 ans, à 9 ans, il y a deux choses, il y a deux histoires, il y a deux mondes. Alors, votre autre question était de savoir si, au cours de la vie, un de ces lourdes croyances triomphe de l'autre. Bien entendu, c'est la croyance universaliste qui triomphe de la croyance particulariste, et à cela tout contribue. Tout contribue d'abord le passage du village breton à la petite ville, c'est déjà autre chose, puis de la petite ville à la ville plus grande où on entre en Hippocagne, puis Paris où on entre en Cagne, puis l'école normale supérieure, pour achever par un stage de jeunesse au Parti communiste qui ne me fait pas aujourd'hui grande fierté, mais qui est quand même un stage universaliste aussi à sa manière. Et donc, dans tout cela, dans ce parcours, je m'arrête là, hein, évidemment, parcours, dans tout cela, j'ai appelé ce chapitre l'éloignement, et c'est effectivement un éloignement loin des particularités régionales. Cela étant, elles ne sont pas abolies pour autant, parce que ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est drôle d'ailleurs, parce que je me suis consacrée à des moments et à des lieux de l'histoire de France qui ne sont absolument pas amicaux aux particularités. La Révolution française, qui les éradique, l'école publique française, obsédée d'unité, mais en faisant ces recherches et ces travaux et en écrivant ces livres, je me suis aperçu aussi que c'est l'effort forcené d'unification du territoire français qui fait naître à chaque pas les résistances et les particularités, au point qu'on peut dire probablement que le régionalisme est d'une certaine façon l'invention de la Révolution française, parce que plus on a l'ambition d'avoir une seule nation, un seul territoire, un seul enseignement, une seule âme d'un bout à l'autre du territoire, et plus on rencontre sur le terrain les résistances obstinées des êtres qui continuent, par exemple, à honorer Saint Fiacre et à bouder la déesse raison. Cette déesse raison dont les spectateurs des fêtes de la Révolution française disaient « Cette déesse-là a-t-elle fait bien des miracles ?» La déesse raison n'a pas tenu la route longtemps face aux vieux saints auxquels on pouvait adresser des prières ciblées. Et de la même manière, le calendrier révolutionnaire n'a pas tenu. Le décadit s'est effacé devant le dimanche. Les gens ont continué à s'endimancher, ou en tout cas à mettre des habits un peu moins sommaires le jour du dimanche et à traîner en guenilles le jour du décadit. Et puis les femmes en particulier, ceux qui sont vraiment la poche de résistance à l'entreprise d'unification, les femmes se sont ingéniées à camper à la porte des églises, à réclamer leurs ornements d'église, la dorure, l'éclat de leurs ornements d'église sur leurs autels, ou encore la voix rassurante de leurs cloches. Et donc il y a eu partout une sorte de... Partout les résistances et les particularités sont apparues. Elles sont apparues d'autant plus qu'on voulait les éradiquer. Et finalement, ça a été probablement une défaite, au moins une défaite, oui, de la Révolution française. Benjamin Constant a pu dire que tout cet effort démesuré n'a pas été capable de déplacer un seul saint de village. Donc, il y a quelque chose de paradoxal dans le fait que j'ai élu, venant d'où je venais, d'un milieu très particulariste, que j'ai élu ces sujets universels d'étude, et pourtant j'ai fini par retrouver les particularités au sein même de ces recherches-là.
Puisque vous avez parlé du rôle des femmes, je crois qu'il y a évidemment une figure très, 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 très forte, très puissante dans votre ouvrage, c'est celle de la grand-mère, le portrait de la grand-mère. Donc, je vous laisse nous en dire plus peut-être sur l'importance donc du personnage de la grand-mère dans l'enfance, dans l'éducation de Mona Ozouf.
Ma grand-mère est à la fois l'incarnation même de la particularité, puisqu'elle est chez nous. Ma mère, ça se fait en Bretagne. Je crois que personne n'a à le décider. Une fois ma mère veuve, sa mère vient habiter avec elle, fermer la porte à toute intrusion masculine qui pourrait déranger sa régence. Et donc, ma grand-mère est un personnage à la fois despotique, pour ma mère sûrement épouvantablement despotique, mais pour moi très rassurant et très chaleureux. Et c'est la deuxième d'une famille de 12 enfants qui n'est jamais allée à l'école. Elle était née en 1872, donc 10 ans quand apparaissent les lois Ferry sur l'obligation, etc. Donc elle n'est jamais allée à l'école et elle a appris à lire et à écrire. Ça d'ailleurs, ça donne un peu la mesure du personnage. Elle a appris à lire et à écrire vers 24-25 ans pour soustraire à l'écrivain public du bourg les lettres d'amour à son jeune mari, marin d'État, parti sur les mers de Chine pendant des mois. Et donc, pour ne pas avoir honte devant un écrivain public, parce que la honte est la catégorie morale fondamentale de ma grand-mère, elle apprend à lire et à écrire. Ça les reste toujours pour elle une sorte de cérémonie, à laquelle il faut longuement se préparer, mais enfin, elle apprend à lire et à écrire. Et elle est une personne tout à fait intéressante et aussi emblématique du rôle des femmes dans ce bout de monde léonard, dans ce Léon finistérien, où ce qui est tout à fait frappant, probablement aussi en partie à cause du rôle des hommes qui sont partis en mer, ce sont les femmes qui détiennent les clés de l'existence quotidienne. Ce sont elles sont absolument conscientes de leur supériorité. J'écris dans le livre que si ma grand-mère avait pu connaître les gloses de Bourdieu sur la domination masculine, ça l'aurait fait rire aux larmes, parce qu'elle était absolument convaincue de la domination féminine en toute chose, et du reste, elle l'exerçait. Et elle avait pour les hommes, elle avait pour les hommes une sorte de condescendance affectueuse. Mais pour elle, si on avait pu élever les hommes au niveau moral des femmes, tout aurait été parfait, mais c'était irréaliste. Et évidemment, le métier qu'elle exerçait, elle tenait à Lannilis, un bourg du Finistère, de l'extrême Finistère, l'extrême ouest du Finistère, un café de village où elle faisait le fricot de la foire et où elle faisait aussi, elle servait à manger, enfin elle donnait ce qu'il y avait à manger à celui qui passait par là. Et un tel métier suppose en Bretagne assez de poigne pour mettre à la porte ceux que l'usage intempérant du vin rouge ou de ce qu'on appelle en Bretagne le gwin ardent, le vin ardent, c'est-à-dire l'eau de vie, ce donc cet usage intempérant amène à extravaguer ou à délirer, et donc il faut mettre ces gens-là fermement à la porte. Et il faut aussi, c'était un des exploits de ma grand-mère, calmer un exhibitionniste en lui jetant un seau d'eau froide au bon endroit, au bon moment. Et donc, voilà la personne de ma grand-mère à qui donc on ne pouvait pas en compter. Et c'est la figure tutélaire de mon enfance. C'est elle qui donne un peu de douceur à l'existence. C'est elle qui met au four le farce, dont l'odeur saisit les narines quand on rentre de l'école. C'est elle qui console, etc. Donc... Oui, un personnage en plus, un personnage très qui veut faire ce qu'il faut dans la vie. Il faut toujours faire ce qu'il faut, ne pas avoir honte de ce qu'on a fait. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui n'a aucun respect pour les grandeurs d'établissement, aucun respect pour les autorités consacrées, et qui a une sorte de tendresse libertaire qu'elle dispense aux vagabonds du village, aux dissidents du village. Un mélange assez étonnant, mais voilà, un personnage.
Peut-être maintenant, on va aborder ensemble donc la question de la littérature, parce que bon, vous n'avez peut-être pas tout à fait jusqu'au bout de votre pensée, me semble-t-il. On a l'impression que ça reste une espèce de un peu de frustration, comme si c'était quelque chose que vous ne vous autorisez pas. Mais que c'est aussi quelque chose qui pourrait vous réconcilier avec vous-même. C'est-à-dire que ce serait le lieu où les conflits intérieurs, ces conflits qui viennent de l'enfance, hein, entre le particulier et l'universel, ces conflits pourraient être dépassés. En fait, la littérature, c'est ce qui échapperait aux normes. Est-ce que je me trompe quand j'avance tout ça ?
Non, pas du tout. Vous avez raison sur presque toute la ligne. En fait, j'aurais adoré faire des études de lettres. C'était ça que j'aurais aimé faire. Mais j'étais totalement nulle en langues anciennes. Et donc, c'était hors de ma portée. Le collège Ernest Renan de Saint-Brieuc, où j'ai eu des professeurs de français absolument merveilleux, n'était pas tout à fait à la hauteur en ce qui concerne les humanités classiques. Et donc là, voilà, c'était hors de portée de faire des études de lettres. C'est pourquoi j'ai fait des études de philosophie, puis j'ai rebasculé un peu vers l'histoire. Enfin, tout ça sans aucun plan de carrière jamais établi. Mais enfin, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, nostalgie, oui, mais en même temps, je pense que le genre littéraire le plus accompli, c'est certainement le roman. Mais je pense aussi que pour s'y risquer, il ne faut pas avoir trop en tête les grands modèles. Là, les grands modèles sont d'une telle force et d'une telle intimidation que je ne me vois pas du tout. Je ne me suis jamais vue, d'ailleurs, si j'avais vu, ça se saurait depuis le temps. Mais je ne me suis jamais sentie capable d'écrire un roman.
Quels sont vos grands modèles ?
C'est les grands russes, d'un côté, c'est Tolstoï, c'est Dostoïevski moins. Moi, je prends une préférence pour Tolstoï, mais enfin bref, c'est les grands modèles. Parmi les anglo-saxons, c'est naturellement James, mais c'est aussi quelqu'un comme George Eliot que je révère. Donc voilà, non, ça règle la question du roman. Cela étant, le goût de la littérature, je crois, m'a aidé à... Dans une période de ma vie où je dérivais effectivement très loin de la leçon initiale de l'enfance qui était l'attachement aux particuliers et les appartenances singulières, la littérature m'a aidé à comprendre que la vérité des vies est dans les détails et que seule la littérature est capable de rendre la texture d'une vie, la saveur d'une vie et aussi ses méandres. La littérature est quand même le lieu, le royaume de l'inattendu. On ne peut pas déduire le caractère des personnages, des moyens de production, comme vous nous l'enseignez dans ma jeunesse marxiste. Il y a une très belle phrase de Nabokov là-dessus qui dit « La littérature est une démocratie de détails ». Et je trouve que c'est profondément vrai. Et donc il y a dans la fréquentation de la littérature... quelque chose qui ramène au particulier et qui compense l'embardé que j'ai faite à un certain moment du côté de l'universel, il me semble.
Bien, vous parlez d'une personnalité importante, enfin d'un personnage important qui vous a éveillé à la littérature, c'est Louis Guilloux.
Oui. Oui, j'ai eu cette chance au collège d'avoir comme professeur de lettres. La femme de Louis Guilloux, René Guilloux. Or, il se trouve que René Guilloux avait été le professeur de lettres de ma mère à l'école normale d'institutrice de Saint-Brieuc. Quand elle était le professeur de ma mère, elle avait à peine quelques années de plus que les jeunes normaliennes auxquelles elle devait enseigner la littérature, et elle s'était prise d'affection pour ma mère, qui était sa meilleure élève. Et là-dessus, elle me retrouve... au collège Ernest Renan de Saint-Brieuc, en classe de troisième. Elle me repère, elle comprend que je suis la fille de cette jeune fille dont elle avait gardé un bon souvenir. Et du coup, elle m'invite chez les Guilloux le jeudi pour jouer avec Yvonne Guilloux, qui était leur fille. Et là, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, parce que je découvre un autre monde. D'abord, une autre bibliothèque, un autre trésor de livres, qui n'existe pas chez moi. Et puis, Guilloux, qui est à la fois quelqu'un de très ironique, quelqu'un de très tendre, mais quelqu'un de très ironique, me questionne sur mes admirations littéraires. Et de manière ingénue, moi, je lui sors toutes mes admirations provinciales, c'est-à-dire Anatole Le Braz, Charles Le Goffy, que sais-je, des choses que le Guilloux trouve... niaiseuse, comme on dit au Québec. Et donc, il les balaie d'un revers de main, et il me dit, c'est pas du tout ça qu'il faut lire. À ce moment-là, on sort de la guerre, je me suis abonné aux lettres françaises, et je vis dans la révérence des auteurs que les lettres françaises m'en mettent en avant. Guilloux, dans tout cela, il retient que quelque chose, il me dit... Lorsque l'étranger de Camus, pareil, me dit que la chose à lire tout de suite, c'est Camus. Il parle de ce Camus que je ne connais pas du tout, jamais entendu son nom, comme de quelqu'un envers qui il a à la fois révérence, admiration, affection, etc. C'est lui aussi qui me fait lire les Anglais, parce que René Guilloux et Louis avaient traduit ses romans, ses merveilleux romans anglais. De l'entre-deux-guerres, Margaret Kennedy, des romans formidables à lire quand on a 13 ou 14 ans. Et donc, bon, bref, il y a d'une initiation à d'autres choses que ceux dont on parle chez moi, mais ce que je trouve chez moi. Et puis, il y a Bon, c'est assez grisant de fréquenter ce que toute la petite ville de Saint-Brieuc prend, enfin, comme un grand écrivain, reconnaît comme un grand écrivain, même si les sentiments de la ville à l'égard de Guillou sont extrêmement mélangés, parce que Guillou est l'auteur du Sang Noir, que dans le Sang Noir, Saint-Brieuc n'est pas absolument flatté, et que donc la ville a des réticences à l'égard de ce personnage bizarre qui se balade en ville toute la journée. Ce qui était très drôle, c'est que les gens de Saint-Brieuc disaient il se promène sans aller nulle part. Et effectivement, Guillou n'avait pas de but, sauf il se définissait lui-même comme un buveur de rue et il aimait déambuler dans la ville. Mais la ville considérait ça d'un œil un peu, enfin, surpris, au moins surpris. Mais bon, tout le monde sait que c'est un grand écrivain, et ce grand écrivain est en train, quand je fréquente sa maison, d'écrire Le jeu de patience, et il me prend à témoin, il me dit « Qu'est-ce que tu penses de ce titre ?» Je crois que je vais choisir... Pour moi, c'est formidable, hein, quelqu'un qui est en train de l'écrire un livre, de choisir un titre, et qui me demande, j'ai 13 ans ou 14 ans à peu près, qui me demande... Alors, j'ai pas d'avis, bien sûr, mais quand même, et qu'on hésite sur Le jeu de patience, etc. Alors, il m'explique que le livre, qui d'ailleurs n'est pas, à mon avis, le plus réussi de Guillou, mais enfin, à ce moment-là, je ne le sais pas, est un puzzle et que du coup, Le jeu de patience, enfin bref. Enfin, tout ça est tout à fait grisant. Et puis, c'est de lui aussi que je tiens une sorte d'avis qui a été absolument prémonitoire. Sa femme nous avait donné en composition de rédaction, en composition française, à écrire un pastiche de Chateaubriand. Et donc, moi, j'avais beaucoup lu Chateaubriand, puisque Chateaubriand était une des gloires de la maison, donc c'était pas trop difficile d'attraper le rythme, etc. Et donc, j'avais écrit une vingtaine de lignes. J'étais pas très tranquille, d'ailleurs, parce que je voyais les camarades qui en mettaient long, comme on disait à l'époque, des tartines. Et moi, j'ai écrit très peu de lignes, mais j'avais essayé de retrouver le rythme et j'avais fait des invocations à la lune, en me souvenant des invocations à Saint-Yves par Chateaubriand. Bref, j'avais eu une très bonne note. Et Guillou avait, le jeudi suivant, commenté ma copie. Et il m'avait dit, tu vois, ça, j'ai toujours ça dans l'oreille, et ça répond peut-être à votre question, tu vois, si on n'est pas capable d'écrire un roman, on peut quand même écrire. Et on peut être, par exemple, m'a-t-il dit, on peut être celle qui sait le plus de choses sur Chateaubriand. Et c'est pas rien, m'a-t-il dit. Donc, c'est le viatique qui m'a accompagnée.
L'histoire comme substitut à la littérature.
Le deuil à peine éclatant de la littérature.
Bon. Vous avez évoqué à deux reprises là, votre adhésion au Parti communiste, rappelons-le, entre 1952 et 1956, donc période de forte influence du Parti communiste sur la Bien société sûr. Française. Est-ce un phénomène purement générationnel, à votre avis,
Ça l'est assez largement. Ça ne l'est pas, évidemment, puisque à l'école normale supérieure, c'est quand même un tout petit groupe seulement qui adhère au Parti communiste. Mais il est vrai que c'est un phénomène de génération, parce que parmi tous mes amis historiens, ceux que j'ai connus à cette époque et qui sont d'ailleurs fort connus, Emmanuel Leroy-Ladurie, François Furet, Denis Richet, Maurice Agulon, tous ces gens sont au Parti communiste. Et à mon avis, je pense qu'il y a un phénomène de génération parce que nous étions trop jeunes pendant la guerre pour avoir participé de près ou de loin à une activité de résistance. Il nous en reste une sorte d'obscure culpabilité, je crois, par rapport à nos aînés immédiats, nous n'avons rien fait. Et donc, nous essayons d'expier ça ou d'équilibrer ça par l'extrémisme, à quoi contribue aussi l'extrémisme de la jeunesse, bien sûr. Ajoutons à cela que pour des gens qui avaient au départ, c'était mon cas, familialement, une identité de gauche, le Parti socialiste de l'époque était infréquentable. Et donc, nous allions presque naturellement au Parti communiste. Et raison supplémentaire pour moi, à partir de cette enfance très solitaire, où il n'y avait pas de possibilité de dire nous, c'était la possibilité d'être inclus dans un groupe très chaleureux. Où évidemment, le « eux » et le « nous » fonctionnaient à merveille. La frontière entre ceux qui n'en étaient pas et ceux qui en étaient était extraordinairement tranchée, de façon qui me paraît aujourd'hui insupportable. Mais enfin, c'était un milieu, pour moi, rassurant, enfin englobant. Et du reste, tous ces amis tous les amis de cette époque le sont pour moi restés tout au long de la vie, malgré les innombrables dérives, méandres politiques qui s'en sont suivis.
Ce qu'on sent bien dans votre livre, c'est le passage, enfin l'acceptation, je dirais, de la complexité, c'est-à-dire bon, de raccorder tous ces morceaux, de les composer, hein, oui. Et d'accepter cette complexité. Du coup, quand vous avez des prises de position à émettre, à poser, vous les posez au cas par cas. Et ça, c'est très net en ce qui concerne, par exemple, le féminisme. Oui. Puisque vous le dites à plusieurs reprises, féminiser un nom, ça ne vous paraît pas important. Donc ça vous met sur ce registre-là de la oui. Féminisation des noms, ce qui a tendance quand même à gagner du terrain aujourd'hui. Hein. Et puis, si je vous ai bien lu aussi, sur la question du port du foulard, vous n'êtes pas opposé au port du foulard à l'école, par exemple. Alors expliquez-nous un petit peu tout ça. Alors qu'on vous sait attaché aussi à l'égalité, bien au sûr. Combat pour l'égalité entre hommes et femmes.
Donc, ah bah absolument, bien voilà. Sûr. Mais je crois que précisément, quand on tient l'égalité, je prends le problème du féminisme, quand on prend l'égalité pour principielle, la liberté et l'égalité d'ailleurs, mais enfin parlons de l'égalité, quand on tient l'égalité entre hommes et femmes pour principielle, je crois qu'on peut accepter tout à fait aisément, par exemple, que les femmes se livrent à des tâches qu'un féminisme intégriste juge subalterne. J'ouvre les guillemets, bien sûr. C'est-à-dire que on ne considère pas qu'il est, comment dire, amoindrissant de se livrer à des tâches domestiques. Au contraire, je ne pense pas du tout que ce soit contradictoire. Je pense, par ailleurs, si je suis absolument convaincue de l'égalité des êtres, je ne suis pas sûre, je ne crois pas du tout à l'indistinction. C'est-à-dire que par rapport aux féministes égalitaires qui vont vers l'indistinction, c'est-à-dire qui nous expliquent que X égale Y, que les rôles des femmes et les rôles des hommes peuvent être exactement décalqués les uns sur les autres, je ne crois absolument pas cela. Je ne crois pas cela pour des raisons très, d'ailleurs, qui sont liées à l'histoire. Si je reviens à l'histoire de la Révolution, pourquoi est-ce que les femmes sont la poche de résistance aux innovations révolutionnaires ? Parce que les femmes sont du côté de la transmission. Elles sont du côté du passé. Elles sont du côté de la filiation. Est-ce que ça a beaucoup... Bon, je ne développe pas, il y aurait 1000 exemples à donner. Mais est-ce que ça a beaucoup changé ? Il suffit d'ouvrir le Nouvel Observateur et les petites annonces du Nouvel Observateur, ce que demandent les hommes et ce que demandent les femmes. Les hommes cherchent l'aventure, les femmes cherchent la durée. Et plus si affinité, c'est ça la demande féminine. Alors, c'est une demande statistique. On va me dire qu'elle va céder à l'indistinction croissante des rôles. D'ailleurs, on me l'a dit 20 fois. Oui, ça c'est pour un moment donné de l'évolution historique, mais tout cela est en passe de céder parce que les rôles deviennent indistincts. C'est vrai, l'indistinction croît dans la société. Indistinction vestimentaire, indistinction... Bon. Par rapport à cette indistinction, je me pose deux questions sur lesquelles je n'ai pas de réponse ferme, mais je vous les livre. Première chose, est-ce que cette indistinction est possible? C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut aller jusqu'à son terme d'équivalence absolue? Pas sûr. Pas sûr quand même, parce que jusqu'à présent, ce sont quand même les femmes qui fabriquent un enfant de façon lente, et qui probablement a quand même sur leurs existences une incidence plus grande que celle qu'on nous décrit quand on nous décrit les perspectives grisantes de l'homme enceint, etc. Bref, est-ce que cette indistinction donc peut aller jusqu'à son terme? Je n'en sais rien. Je n'en suis pas sûre. Deuxième chose, beaucoup plus importante à mes yeux, est-ce que cette indistinction est souhaitable? Alors là, ma réponse est un non absolu. Pourquoi? Parce que si on imagine cette indistinction accomplie, on s'aperçoit tout de suite que s'évapore de la vie la saveur du romanesque, le tremblement de la rencontre amoureuse, tout ça disparaît complètement. Et donc, je pense en tout cas que cette indistinction n'est absolument pas souhaitable et qu'il faut là encore préserver les précieuses particularités. Donc voilà, sur cette question du féminisme, ma réponse est évidemment insatisfaisante parce que c'est au cas par cas. Si la différence féminine est imposée par des mesures iniques, si elle est imposée par le fouet, par le voile, que sais-je, évidemment, dans ce cas-là, il faut lutter de toutes ses forces contre ces mesures. Mais il y a des différences qui peuvent être heureusement vécues et qui peuvent être vécues, je crois, sans pour autant blesser l'égalité. Encore une fois, c'est l'idée de l'égalité principielle peut abriter en elle ensuite toutes les différences possibles. Quant à l'affaire du voile, c'est vrai que c'est sur l'affaire du voile que j'ai le plus de perplexité. Pourquoi? Parce que lorsque a surgi cette affaire dans notre vie publique, je dois dire, j'avoue, que j'étais du côté de la tolérance des foulards, parce que je préfère, moi, employer le mot foulard que le mot voile. J'étais pour la tolérance des foulards dans l'école publique. Pourquoi? Parce que j'avais en mémoire très nette la manière dont Jules Ferry avait, et Buisson, surtout Buisson qui est l'auteur des circulaires, avait réglé le problème des crucifix à l'école. Ces crucifix étaient devenus illégaux dans l'espace public dans les années 1880, et donc dans chaque commune française s'est posée la question de savoir si on décrochait de la salle de classe ou non le crucifix. Alors Ferry, qui est un esprit à la fois courageux et modéré, ce qui, à mon avis, est la conjonction que, pour ma part, j'admire le plus, et c'est la raison pour laquelle j'admire beaucoup Ferry, avait conçu des circulaires d'application tout à fait sages. Le crucifix, si ça fait problème, si on est dans une commune où le décrochement du crucifix fait problème, la sagesse est d'attendre une campagne de réfection des locaux scolaires, la venue d'un peintre, on décroche le crucifix, et puis on oublie de le remettre. Quitte à le raccrocher si la population le réclame. Pourquoi quitte à le raccrocher si la population le réclame? Parce que la foi constante de Ferry et de ses législateurs républicains est qu'il vaut mieux entendre l'enseignement civique et historique sous un crucifix que de n'en pas entendre du tout. Affirmation avec laquelle je me sens en parfaite consonance. Et donc je me disais que tolérer quelques voiles dans la salle de classe était peut-être préférable à faire entendre un enseignement républicain à ces jeunes filles était peut-être préférable à leur renvoi en salle de documentation ou pire, chez elles sous l'autorité de pères despotiques ou de grands frères vengeurs. Bon, et puis la chose a évolué, elle a évolué par la multiplication des cas d'abord. Et puis elle a évolué par la demande des proviseurs de lycée, la demande pour une loi. Et effectivement, dans la première jurisprudence, qui était une jurisprudence Jospin, si mes souvenirs sont bons, il était question de laisser aux proviseurs le soin d'apprécier eux-mêmes sur le terrain si les foulards portés par les jeunes filles étaient des foulards prosélytes ou simplement des foulards presque contraints. Une de mes amies, du reste, qui était censeur dans ce qu'on appelle le 9-3, m'avait dit que le port du voile par les élèves était indicateur du chômage des pères. C'est-à-dire, quand le père est chômeur et qu'il est à la maison, il surveille le départ, il surveille l'arrivée, donc les filles mettent le foulard. Et donc, je m'étais dit quand même, elles sont déjà soumises à ça, ensuite les mettre à part, les reléguer, les exclure, c'est quand même trop fort. Voilà qui expliquait ma première position, ma position spontanée sur le problème. Et puis, Et puis, il y a effectivement une multiplication de cas. Il y a eu cette demande des proviseurs pour pouvoir s'abriter derrière un texte, ce que je peux comprendre. Et puis, il y a eu la commission Stasi qui a montré partout des cas peu tolérables, comme par exemple dans les hôpitaux, le refus des soins à une femme quand c'est un homme médecin qui les prodigue. Enfin, bref. Et donc, devant cette flambée de cas, je me dis que peut-être, en effet, légiférer peut être un moyen, au moins provisoire, de régler la situation. Mais je n'ai aucune certitude théorique sur le problème, et je pense aussi que dans le règlement du problème a beaucoup compté ce sur quoi j'ai quand même beaucoup travaillé, et qui est un peu l'origine de ce livre, c'est-à-dire la résistance particulière des Français à accueillir les particularités. Parce que je me souviens quand même d'un article qui expliquait que dans les collèges anglo-saxons, le foulard était toléré à condition qu'il soit aux couleurs du collège. Ce qui me paraît typique de l'esprit de compromis, de l'esprit anglais du compromis, de la sagesse anglaise du compromis. Bon, bref.
Bien, je vous encourage à lire ce bel et stimulant ouvrage maintenant. Merci.